Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous, J-2 pour le référendum sur le Brexit. Le scrutin s'annonce serré et toutes les voix compteront, mais toutes ne seront pas comptabilisées. Les Britanniques qui résident à l'étranger depuis plus de 15 ans ne pourront pas voter au grand dam d'Harry Schindler, 94 ans, vétéran britannique de la Seconde Guerre mondiale, installé en Italie. Il a mené toute une campagne pour faire valoir ses droits, en vain. Portrait signé Mathilde Villain.
Il avait 22 ans lorsqu'il a débarqué avec les troupes britanniques sur la plage d'Anzio pour libérer l'Italie du fascisme et du nazisme. L'Union européenne n'existait pas encore, et lorsque le rêve européen est devenu réalité, que la liberté de circulation a été garantie pour ses citoyens, Harry Schindler est venu naturellement s'installer dans ce pays qu'il avait aidé à retrouver sa liberté. Depuis 30 ans, il vivait paisiblement dans les Marche, au nord-est de l'Italie, jusqu'au jour où il a découvert avec stupeur que, résidant depuis plus de 15 ans hors de Grande-Bretagne, il ne pourrait voter au référendum sur le Brexit. Face à cette disposition qu'il juge antidémocratique, le vétéran européen convaincu n'a pas voulu se résigner. Harry Schindler a ainsi monté un comité et déposé un recours auprès de la Haute Cour de justice de Londres. Après un long combat judiciaire, Harry Schindler a finalement été débouté. Le juge a estimé que cet article 2 de la loi référendaire qui empêche plus de 700 000 Britanniques vivant hors de leur pays depuis plus de 15 ans n'est pas contraire au principe de la libre circulation dans l'Union européenne. Surpris de cette décision, Harry Schindler accuse les conservateurs d'avoir fait campagne contre lui. Il pense que les expatriés ne font que siroter du vin sur la plage, dénonce-t-il dans une interview au Télégraphe. Or, ce n'est pas comme ça. Si la Grande-Bretagne devait sortir de l'Union européenne, beaucoup d'expatriés devront tout abandonner pour rentrer à contre-cœur au pays, s'inquiète le vétéran qui ne baisse pas les armes et poursuit son combat anti-Brexit dans les médias.
Et dans cette campagne, on a beaucoup entendu les acteurs économiques et la City, tous favorables au maintien dans l'Union. On a moins entendu les artistes qui n'ont pas tenu à s'exprimer à titre personnel. En revanche, l'industrie musicale britannique a fait connaître sa position haut et fort. Elle veut que le Royaume-Uni reste européen et les arguments sont nombreux. C'est le reportage de Marie Billon.
Ce jeune groupe bulgare a joué il y a quelques mois sur la plus vieille scène indépendante de Londres, celle du fameux 100 Club sur Oxford Street. Jérémy, c'est le nom de la formation, fait partie des dizaines d'artistes européens qui se produisent chaque année sur la scène de Jeff, le propriétaire du club.
Depuis un moment, on a de plus en plus de groupes originaires d'Europe de l'Est dans notre programmation, et ça c'est assez unique. Mais début juin, on a dû annuler le concert d'un groupe serbe à cause d'un problème de visa. Et qui sait combien de fois cela va se reproduire si tous les groupes européens doivent désormais obtenir un visa pour venir ici.
C'est un problème qui affectera surtout les jeunes artistes, ceux qui veulent se faire connaître. Les grands noms de la musique, eux, ont une armée d'aides qui leur facilite la vie et qui ne feront qu'ajouter les visas à leur liste de tâches. Mais il n'y a pas que les musiciens qui pourraient être empêchés de venir à Londres à cause d'une histoire de papier.
Un Brexit affecterait le tourisme, ça j'en suis certain. Et personne ne veut revoir ces longues files d'attente à la frontière. Alors si on commence à rendre la vie difficile aux gens, ils vont hésiter à venir. Oui, des festivals comme Glastonbury ou celui de l'île de Wight sont spéciaux, mais si on complique la vie aux spectateurs, ils choisiront plutôt les festivals qui se déroulent sur le continent.
Jeff n'est pas le seul propriétaire de petites salles à s'inquiéter pour la musique. Beaucoup craignent de passer à côté de grands talents à cause de soucis administratifs. Mais la pop n'est pas le seul genre concerné, la musique classique l'est aussi. Jace Elson est le manager de l'English Orchestra, un orchestre spécialisé dans la musique baroque.
On a beau s'appeler l'orchestre anglais, probablement la moitié de nos musiciens sont des étrangers. On a trois Allemands, un Espagnol, un violoniste finlandais. Plusieurs Scandinaves, c'est un vrai mélange de nationalités, surtout européennes.
Comme c'est le cas pour la plupart des formations, aucun des musiciens n'est salarié. Tous ce sont des contractuels qui travaillent au gré des concerts.
Ça deviendra peut-être compliqué pour les Européens de venir auditionner. Ça freinera peut-être notre processus de recrutement si les Européens ont besoin d'un visa ou d'un permis de travail. On ne tient pas à engager davantage telle nationalité plutôt qu'une autre. On veut les meilleurs musiciens, mais à cause de ces difficultés, on aura peut-être moins d'Européens.
Jice a aussi peur pour les tournées qu'effectue son orchestre. Environ 20% de ses concerts sont en Europe.
Il y aura peut-être des régulations commerciales qui nous rendront hors de prix pour certaines salles de concert sur le continent. Nous travaillons notamment avec le Théâtre des Champs-Élysées à Paris ou le Théâtre de Vienne. S'il y a une tonne de formalités à remplir pour nous avoir, même s'ils veulent de nous, ils se diront peut-être « c'est trop compliqué » ou « c'est trop cher ».
Là encore, les grands orchestres n'auront pas ce genre de soucis, mais le milieu musical n'abandonne pas les petits au bord de la route. Il sait à quel point les petits d'aujourd'hui peuvent être les grands de demain. L'industrie phonographique britannique, le BPI, a donc demandé au label leur opinion sur le référendum. Environ 70% de ceux qui ont répondu se sont prononcés pour le maintien dans l'UE. Gennaro Castaldo est le porte-parole de l'organisme.
Le plus grand sujet de préoccupation des labels, c'est la protection du copyright. Ils ont l'impression que leurs intérêts sont mieux protégés au sein de l'UE. Le législateur européen accorde beaucoup d'importance à la protection de l'industrie créatrice et il abat énormément de travail dans ce sens. C'est un exemple concret qui montre pourquoi nous pensons que nous ferons plus d'avancées au sein de l'Europe plutôt que chaque pays individuellement.
95% des labels qui ont participé à l'étude font beaucoup de commerce avec le continent européen et apprécient de pouvoir exporter sans frais au sein du marché commun. Le Royaume-Uni est le second plus grand exportateur de musique dans le monde entier.
Si l'exportation des biens est soumise à une taxe, les disques pourraient aussi être concernés. Certains artistes pourraient avoir un accès plus limité qu'aujourd'hui au marché européen. Les chanteurs comme Adele ne verront pas la différence, mais les musiciens moins connus ou qui débutent pourraient se voir fermer certaines portes au nez, alors qu'elles étaient jusque-là grandes ouvertes.
Les pro-Brexit ne sont pas d'accord avec ce qu'ils appellent l'alarmisme du camp Remain. Ils estiment que l'industrie musicale britannique est si populaire sur le continent européen, représentant un quart des ventes de disques, que même en cas de Brexit, personne n'aurait intérêt à lui mettre des bâtons dans les roues.
Les arguments pour ou contre le Brexit, il y en a eu beaucoup au cours des derniers mois, mais s'il en est un qui a largement nourri la campagne des anti-européens, c'est bien celui de la lutte contre l'immigration et plus précisément de la lutte contre l'immigration européenne. Comment expliquer l'emprise de cette question sur les débats? C'est ce que va nous expliquer Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
Avant d'aborder la question des migrants, quelle valeur les Britanniques associent-ils à l'Union européenne ?
Le dernier Eurobaromètre publié en mai 2015 sur les opinions des citoyens des 27 membres à l'égard de l'Union montre que les Britanniques se sentent peu concernés par l'UE. Ainsi, l'Europe ne représente la paix que pour 16% d'entre eux, contre 44% des Allemands et 27% des Français. Nos voisins d'outre-Manche sont 32% à avoir une image plutôt positive de l'UE, mais 28% une image négative, alors que les Allemands sont positifs à 45% et négatifs seulement à 21%. Les citoyens du Royaume-Uni sont par ailleurs très opposés à une intégration politique de l'Europe et rejettent à 54% la création d'une armée européenne contre 27% des Français. Et bien sûr, ils refusent à 72% l'union monétaire.
Mais cet euroscepticisme est loin d'être nouveau au Royaume-Uni.
Vous avez raison, Frédéric. Depuis son adhésion en 1972, les Britanniques n'ont jamais été favorables à l'Europe que sur un seul point. La construction d'un marché unique qui facilite leur commerce avec le continent européen vers lequel ils écoulent 50% de leurs exportations et qui permet au centre financier de Londres d'asseoir sa prééminence sur l'Europe. Voilà pourquoi jusqu'au milieu des années 2000, une majorité de Britanniques n'envisageait pas de quitter l'Europe. Ce qui a changé depuis, c'est l'élargissement de l'Union aux anciens pays de l'Est, un élargissement paradoxalement soutenu avec enthousiasme par le gouvernement de Tony Blair, qui y voyait à l'époque un moyen de contrecarrer l'intégration toujours plus poussée de l'Union.
Et ensuite, que s'est-il passé ?
Dès l'élargissement de l'Union en 2004, la Grande-Bretagne a été l'un des seuls pays, avec la Suède et l'Irlande, à accepter d'emblée le libre établissement des travailleurs de l'Est sans prévoir de période transitoire, comme l'ont fait les autres États, Allemagne et France notamment. Du coup, les travailleurs de ces pays d'Europe centrale et orientale ont afflué vers le seul grand pays complètement ouvert aux salariés. Et je dis bien aux salariés, Frédéric, puisque, comme vous le savez, sur la libre circulation des personnes, le Royaume-Uni n'a jamais intégré les accords de Schengen.
Mais c'est une approche un peu contradictoire, Daniel.
Non, cela montre que la stratégie de Londres restait basée à l'époque sur une approche libérale. Accueillir une main-d'œuvre bon marché et peu revendicative ne pouvait aux yeux du patronat britannique que renforcer la compétitivité des entreprises. L'afflux des travailleurs polonais, baltes ou slovaques allait cependant déterminer en 2010. Le nouveau gouvernement conservateur de David Cameron a abandonné cette approche en repoussant au maximum l'ouverture du royaume aux salariés roumains ou bulgares dont les pays, on le sait, n'ont intégré l'Union qu'en 2008. Depuis le 1er janvier 2014, cette période transitoire est terminée et Londres a dû se résoudre à accepter aussi les travailleurs de ces pays. Cela a achevé de faire basculer encore un peu plus l'opinion publique dans le rejet de l'Europe.
Et ces travailleurs de l'Est de l'Europe sont-ils si nombreux outre-Manche ?
Oui, selon Eurostat, on comptait au 1er janvier 2015 presque 1,5 million de travailleurs étrangers provenant de l'Est et établis au Royaume-Uni. Ce qui représente 27% du total de la population étrangère, sans compter les personnes qui ont obtenu leur naturalisation. Figurez-vous qu'en Allemagne, première économie d'Europe, au cœur de la Middle Europa, ils sont un peu moins nombreux en termes absolus et ne représentent que 19% de la population étrangère. On compte ainsi 870 000 Polonais établis outre-Manche, contre 640 000 établis dans l'Allemagne voisine, 168 000 Lituaniens contre 38 000 Outre-Rhin, 110 000 Lettons contre 28 000.
Et comment expliquer le rejet de cette immigration européenne au Royaume-Uni ?
En France et en Italie, il y a quand même la forte poussée du populisme. Mais le rejet des immigrés se focalise bien davantage sur les populations extra-européennes. Au Royaume-Uni, le phénomène est tout à fait particulier. Le pays est accoutumé depuis des décennies à accueillir des migrants de l'ex-empire britannique, des Indiens, des Pakistanais, des Caribéens, des gens qui, dans leur majorité, se concentrent dans la conurbation londonienne ou les grandes villes industrielles comme Liverpool ou Birmingham. Cette immigration est sous le contrôle de la Grande-Bretagne. Avec les Européens de l'Est, c'est tout différent. D'une part, ces populations ont un droit à s'établir en vertu des traités européens et Londres ne peut les refuser. D'autre part, les Polonais ou les Baltes travaillent beaucoup dans le bâtiment, l'agriculture et la petite industrie. Cela veut dire que beaucoup s'établissent dans des villes moyennes ou même des zones rurales, là où résident des populations plus âgées, peu insérées dans l'économie globale et inaccoutumées à côtoyer des personnes de cultures différentes. Si les adversaires de l'Europe ont gagné 10 points ces dernières années en Angleterre, et si les nationalistes de l'UKIP y ont progressé si fort, c'est bien essentiellement en raison de cette nouvelle vague migratoire venue de l'Est.
Merci Daniel Vigneron, à la semaine prochaine.
À bientôt Frédéric.
Et on terminera sur l'Euro 2016. Le football, l'autre grand sujet européen de la saison. L'Irlande du Nord affronte ce mardi l'Allemagne. Une province d'à peine 2 millions d'habitants contre le champion du monde en titre. L'Irlande du Nord n'avait pas participé à un grand tournoi international depuis 30 ans et la Coupe du Monde de 1986. La guerre civile faisait alors rage et le monde du football reflétait les divisions communautaires. Les protestants étaient derrière l'équipe d'Irlande du Nord, tandis que les catholiques supportaient la République d'Irlande. Des divisions qui sont un peu moins radicales aujourd'hui. À Belfast, Sébastien Duval est allé rencontrer ses supporters côté catholique et protestant.
We're not Brazil, we're Northern Ireland. We're not Brazil, we're Northern Ireland. We're not Brazil, we're Northern Ireland. And the man goes marching on, on, on. All right, man.
Je m'appelle John. On se trouve au club des supporters nord-irlandais de Shankill, à Belfast. Mon oncle m'a emmené voir mon premier match en 1977, lorsque j'avais 8 ans. Et j'ai toujours supporté l'Irlande du Nord. J'ai effectué une vingtaine ou une trentaine de déplacements et je vais voir tous les matchs à domicile.
C'est une chanson sur un attaquant du club de Wigan qui joue désormais pour l'équipe d'Irlande du Nord. C'est ce que chantent tous les supporters pendant ce tournoi.
Peter Maguire, du club des supporters nord-irlandais de Shankill, je suis originaire d'Écosse. Nous ne serons jamais aussi bons que l'Allemagne ou le Brésil, mais il faut faire avec l'équipe que nous avons et la supporter du mieux possible.
Il y a deux équipes en Irlande. Si l'Irlande du Nord était éliminée, est-ce que vous supporteriez la République d'Irlande ?
Non, on doit conserver notre identité. Et nous sommes l'Irlande du Nord et la République est la République, chacun son équipe. Ça marche plutôt bien à l'heure actuelle et j'espère que ça va continuer.
So hopefully we'll keep going.
John Paul Green de False Road, Belfast. C'est ici une rue emblématique du milieu républicain, mais c'est assez calme désormais. Tout le monde pense qu'il y a des bombes et des fusillades sur False Road, mais ce n'est plus le cas, seulement de temps en temps.
On a les maillots de la République d'Irlande, de l'Allemagne, de l'Italie et de la France. Mais vous ne trouverez définitivement pas de maillot de l'Irlande du Nord ici. On ne supporte pas l'équipe d'Irlande du Nord dans notre communauté, c'est comme ça. C'est ce qu'on nous apprend en grandissant.
Je m'appelle Sean Devin, je travaille au Rock Bar sur Falls Road, Belfast. Nous supportons l'équipe de République d'Irlande dans ce quartier. Je pense qu'il pourrait n'y avoir qu'une seule équipe en Irlande plutôt que deux. Ce serait plus logique de n'avoir qu'une seule équipe, comme au rugby. J'y suis 100% favorable.
Si la République d'Irlande était éliminée dès le premier tour, est-ce que vous supporteriez l'Irlande du Nord ou une autre équipe ?
Non, je serais probablement derrière l'Allemagne ou le Pays de Galles. J'aimerais voir les Gallois faire un beau parcours.
Je m'appelle Paul McKeown. Je supporte à la fois l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Je suis catholique, vous pouvez entendre à mon accent que je suis de Dublin. Mais j'ai toujours été à fond derrière les deux équipes. Nous sommes tous Irlandais en fin de compte. La seule chose qui me froisse, c'est d'entendre « God save the Queen » avant les matchs de l'Irlande du Nord. Mais la fédération a beaucoup travaillé pour impliquer davantage les catholiques.
Richard Morgan, je travaille pour Downtown Radio et Cool FM. Le football est plus ouvert aujourd'hui que par le passé, mais les nationalistes supportent généralement la République d'Irlande et les unionistes l'Irlande du Nord. J'ai cependant croisé beaucoup de gens qui supportaient les deux équipes, et c'est une très bonne chose qu'elles soient toutes les deux représentées dans ce tournoi. Regardez autour de vous, il y a des milliers de personnes aujourd'hui et l'ambiance est excellente, tout le monde s'amuse. J'espère que l'Irlande du Nord va l'emporter et que l'Irlande en fera de même demain.
Supporters catholiques et protestants nord-irlandais, c'était le reportage de Sébastien Duval. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site et sur les réseaux sociaux. À demain.